Le 25 juillet 1962. Au début de cette conversation, le disciple a lu à maître certains passages de son deuxième manuscrit sur Sri Aurobindo concernant le silence mental. Notons que dans les premières expériences dont Mère va parler ici, quand elle avait l'âge de 5 ans, il s'agit de la conscience au-dessus de la tête.
Très bien.
C'est un peu... c'est gris, c'est...
C'est la fin du chapitre. Prochain?
Je sais pas, justement.
Tu ne sais pas encore?
Si, j'ai fait des essais, mais ça va pas.
Qu'est-ce que c'est, tes essais?
Je voulais parler de la conscience. Puis je me suis dit qu'il vaut mieux d'avoir parlé du vital.
Ah.
Je voulais d'abord parler de la conscience. Dire ce que c'est que la conscience. Puis je m'aperçois qu'il vaut mieux d'abord parler du vital. Parce que le vital, avant d'arriver à quoi que ce soit, il faut le tranquilliser.
Pas forcément. Moi, je crois que je commencerai par la conscience. Que je sois le vital après.
Mais si je parle de la conscience, je suis amené à parler de l'ascension de la conscience aussi, et puis du supraconscient.
Mmh.
Alors, est-ce que je peux parler de tout ça avant de parler de du vital? Oui?
En fait, si je vois quel a été l'ordre de mon yoga, quand j'avais 5 ans, je devais avoir commencé avant, mais le souvenir est un peu... Et puis une vague, n'est-ce pas? Il n'y a rien de précis. Mais à partir de 5 ans, j'ai dans la conscience, pas le souvenir mental, mais j'ai là dans la conscience c'est noté, la notation. Eh bien, j'ai commencé par la conscience, sans savoir du tout ce que c'était, bien entendu. Et la première chose, première expérience que j'ai eue, c'était celle de la conscience ici. Que je sentais comme quelque chose, comme une lumière et une force. Et que je sentais là, à 5 ans. C'était une sensation très agréable. Et je m'asseyais dans un petit fauteuil qui avait été fait exprès pour moi. Toute seule dans la chambre, n'est-ce pas? Et je ne savais pas ce que c'était, rien du tout, n'est-ce pas? Rien, mentalement zéro. Et une sorte de sensation très agréable de quelque chose qui était très fort et très lumineux et qui était là. La conscience. Et l'impression, c'était... Ça, c'est ça que je dois vivre, que je dois être, naturellement pas tous ces mots. Mais, je dirais ça en bas, parce que c'était ça qui était vraiment la raison d'être de moi. Ça, c'est le premier souvenir que j'ai, 5 ans, et ça... ça agit plutôt dans un sens éthique qu'un sens intellectuel. Et pourtant, sous une forme intellectuelle, puisque, par exemple, n'est-ce pas, j'étais un enfant comme tous les autres, apparemment. Et, excepté que, paraît-il, j'étais difficile. N'est-ce pas, difficile, pas intéressé par la nourriture, pas intéressé par les jeux ordinaires, n'aimant pas aller chez les camarades pour goûter parce que ça c'était pas du tout intéressant de manger des gâteaux. Et impossible de me punir parce que je m'en fichais tout à fait. Si on privait le dessert, c'était plutôt un soulagement. Mais refusant absolument de lire, d'apprendre à lire, refusant d'apprendre, et même très difficile au point de vue de la toilette, c'est-à-dire que, étant entre les mains d'une Anglaise, on voulait me donner des bains froids, que mon frère acceptait très bien, mais moi je hurlais. Plus tard, il a été prouvé, parce que le docteur l'a dit, que c'était pas bon pour moi. Mais ça, c'était beaucoup plus tard. Bon, voilà le tableau. Mais quand avec les relations avec les camarades, les amis, il y avait des difficultés et que je sentais toute la méchanceté ou mauvaise volonté ou toutes sortes de choses qui n'étaient pas jolies qui venaient, assez sensible, surtout portant instinctivement un idéal de beauté, d'harmonie, que toutes les choses de la vie choquaient. Alors, quand j'avais du chagrin, je me gardais bien d'aller dire quoi que ce soit à ma mère ou à mon père, parce que mon père s'en fichait complètement, et que ma mère me grondait, toujours. C'était la première chose qu'elle faisait. Alors j'allais dans ma chambre et je m'asseyais sur mon petit fauteuil. Et là, je me concentrais et je tâchais de comprendre à ma manière. Je me souviens que avec pas mal d'essais probablement infructueux, je ne me souviens pas de tout ça, mais le résultat a été comme ça. Je me parlais toujours à moi-même. Je ne sais pas pourquoi ni comment, ça, c'était, mais c'était toujours, je me parlais à moi-même comme je parlais aux autres. Et je me disais, voilà, tu as du chagrin parce que tel t'a dit cette chose qui était vraiment dégoûtante. Pourquoi ça te fait pleurer? Pourquoi tu as du chagrin? C'est lui qui a fait quelque chose pas bien. C'est lui qui doit pleurer. Toi, tu n'as rien fait de mal. Est-ce que tu lui as dit des choses vilaines? Est-ce que tu t'es battu avec elle ou avec lui? Non, tu n'as rien fait, n'est-ce pas? Et bien, comme tu n'as rien fait, tu n'as pas à avoir du chagrin. C'est seulement si tu avais fait quelque chose de mauvais qu'il faudrait avoir du chagrin. Mais... Alors ça s'est établi très bien. Je pleurais jamais. Avec un tout petit mouvement au-dedans, où il y avait ce quelque chose qui disait « t'as rien fait de mal ?» Pas de fait. La contrepartie était là. Il y avait, qui s'accroissait de plus en plus, ce même quelqu'un qui observait, et qui, dès que j'avais dit un mot de trop, fait un geste de trop, une petite mauvaise pensée, ou taquiner mon frère, ou n'importe quoi, la plus petite chose, tu vois, fais attention. Alors là, D'abord, je me lamentais, puis après, ça m'a appris, faut pas se lamenter, faut arranger. Faut réparer. Quand c'était réparable, je le faisais. Et presque toujours, c'était réparable. Tout ça à la dimension de l'intelligence d'un enfant entre 5 et 7 ans. Par conséquent, c'était la conscience. Et après, il y a eu tout là, le stade d'apprendre et de se développer, mais tout ça sur une chose mentale ordinaire, n'est-ce pas? Des études, dès que j'ai commencé. J'ai voulu apprendre à lire par curiosité. Et ça s'est arrivé comme ça. Je te l'ai raconté peut-être déjà, non? Mon frère revenait, c'était vers 7 ans, un peu avant 7 ans. Mon frère avait 18 mois de plus de moi. Il revenait avec ces grandes images qu'on fait encore avec, tu sais, ces machins pour les enfants avec une petite chose écrite sur chacune d'elles. Alors un jour, il est revenu, il m'en a donné une. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que c'est qu'il a écrit là? Il m'a dit, lis. Il ne sait pas. Ah bon? Alors je lui ai dit, bon, donne-moi les lettres. Alors il m'a apporté un livre où il y avait les lettres pour apprendre l'alphabet. En 2 jours, je le savais. Et en le 3e jour, je commençais à lire. C'est comme ça que j'ai appris. On me disait, cet enfant est en retard, 7 ans, il ne sait pas encore lire, c'est dégoûtant. Enfin, toute la famille se lamentait. Mais il se trouve qu'en une huitaine de jours, j'ai su tout ce que j'aurais pris des années à apprendre. Ça leur a donné à réfléchir. Après les études, j'étais toute très, très brillante élève, toujours pour les mêmes raisons. Je voulais comprendre. Là où les autres apprenaient par cœur, ça ne m'intéressait pas. Je voulais comprendre. Mais j'avais une mémoire de son et d'image. Fantastique. Il me suffisait de lire un poème à haute voix, de lire un poème le soir, le matin, je le savais. Quand j'avais étudié ou quand j'avais lu un livre, on parlait de quelque chose, je disais, ah oui, c'est à telle page. J'ai retrouvé la page. C'était comme ça. Ça n'avait pas été fatigué, c'était en bon état. Mais enfin, ça, c'est une période ordinaire. Mais dans le cours de la vie, j'ai commencé à peu près très jeune. Vers 8-10 ans, je commençais à faire de la peinture. Continuer mes études et faire de la peinture. À 12 ans, je faisais déjà des tableaux, en fait, des portraits. Et alors, toute une curiosité, un intérêt de la chose, de toutes les choses d'art, de beauté, de musique et peinture et tout ça. Et alors, toute une période de ma vie où il y a eu un très intense développement du vital. Mais un développement dans le même sens que quand j'étais tout petit, avec une sorte de guide intérieur. Et c'était tout des études, les études des sensations, les études des observations, les études des exécutions, tout ça avec comparé, tout ça. Même études du goût, études de l'odorat, études de l'ouïe, avec toute une échelle d'observation. C'est-à-dire une sorte de classification des expériences. Ça a duré, avec tous les événements de la vie, toutes les expériences que la vie peut donner jusqu'à... Et toutes les expériences, les misères, les joies, les difficultés, les souffrances, les tout, comme ça. Mais toujours avec ça dedans, qui jugeait, décidait, classait, organisait, et faisait une sorte de système. Et puis, tout d'un coup, intrusion du yoga conscient avec la rencontre de Théo, à peu près à 22 ans, je crois. Changement d'orientation de la vie, tout un ensemble d'expériences, avec le résultat occulte du développement vital, qui était intéressant. Et puis, période intensive de développement mental. Alors, le développement mental dans tout ce qu'il a de plus complet, études de toutes les philosophies, toutes les jongleries des idées, c'est comme ça. Et puis dans les mains, entrer dans les systèmes, les comprendre, mais il y a eu comme ça 10 ans d'études mentales intensives qui m'a mené à ce Hobbit. Alors j'avais, n'est-ce pas, toute cette préparation. Et je dis ça pour te dire, ça a commencé par la conscience. Je savais très bien ce que c'était la conscience, même quand je n'avais aucun mot et aucune idée pour l'expliquer. La conscience est sa puissance. Sa puissance d'action, sa puissance d'effet. Puis, développement du vita, dans tout ce qu'il a, n'est-ce pas ? Aussi complet dans une étude très complète, puis développement du mental jusqu'à sa extrême limite là-haut où on jongle avec toutes les idées. C'est-à-dire développement du mental où on a déjà compris que toutes les idées sont vraies et qu'il y a une synthèse à faire et qu'il y a quelque chose qui est lumineux et vrai par-delà la synthèse. Derrière tout ça, il y avait la conscience qui continuait. Et je suis arrivée dans cet état avec un monde d'expérience et déjà l'union consciente avec le divin, là-haut et au-dedans. Tout ça réalisé consciemment, noté, tout, quand je suis arrivée à ce lieu. Au point de vue Shakti, c'est le cours normal. Conscient, vital, mental, spirituel. Maintenant, pour l'homme, c'est peut-être différent. Je ne sais pas. Parce que Sri Aurobindo, ça a été très particulier, et à part lui, je ne vois personne qui puisse donner un exemple probant. Mais généralement, c'est la conscience physique qui est le plus développée avec la conscience mentale. Les deux choses. Le vital, très impulsif et très peu gouverné. Ça, c'est mon expérience de toutes les centaines et les centaines de gens que j'ai rencontrés. Physiquement, et quand ils sont normaux, avec un développement physique dans les jeux et les exercices, la puissance physique développée, et en même temps un développement mental plus ou moins élevé, mais mental, très mental, vital, très impulsif et très peu organisé, excepté chez les artistes et encore. J'ai vécu 10 ans avec les artistes et je me suis aperçu que c'était beaucoup un terrain en friche. J'étais avec tous les grands artistes de l'époque et j'étais le Benjamin. C'était la fin du siècle dernier, le commencement de ce siècle, avec l'exposition universelle de 1900 et ceux qui à ce moment-là étaient des autorités au point de vue artistique. J'étais le Benjamin de beaucoup, j'étais beaucoup plus petite qu'eux. Ils avaient atteint les 30, 35 ans, 40 ans. Moi, j'en avais 19 et 20. Eh bien, j'étais beaucoup plus avancée qu'eux dans leur propre domaine. Pas ce que je faisais, j'étais un artiste tout à fait ordinaire. Mais au point de vue conscience, observation, expérience, étude. Je ne sais pas. Moi, je crois, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça dépend de comment tu sens. Mais il me semble que le problème de la conscience, c'est d'où venir d'abord.
Bon, je ne sais pas, j'avais commencé aussi comme ça. Hein? J'avais commencé comme
oui,
ça.
Oui, c'est bien, je crois. Ce qui m'est arrivé dans la vie, c'est très, très, très logique. Très logique. C'était pas moi, je décidais rien. Bon, à 5 ans, on ne décide pas. Hein. C'était très, très, très logique. Chaque chose était préparée pour ce qui précédait.
Mais qu'est-ce que c'est que cette conscience qu'on sent en soi comme une force? Par exemple, dans la méditation, quelquefois ça monte, ça descend, ça ne se n'est pas posé. Qu'est-ce que c'est que cette conscience?
C'est la Shakti.
C'est la Shakti.
Oui. C'est la Shakti. Alors, il y en a qui la reçoivent comme ça, d'un mot, il y en a qui ça remonte. C'est ce que je t'avais dit une fois, que tout le vieux système, n'est-ce pas, c'était toujours, il venait d'en bas en haut. Tandis que je suis au milieu, il tirait d'en haut en bas. Et alors ça c'est très très clair pour la méditation, enfin le yoga, les expériences. Pour eux, ça, c'est toujours à la base de Kundalini et ça monte de centre en centre avec éclosion ici. Avec Shiobindo, ça vient comme ça. Et puis ça s'établit là, centre. Et puis de là, ça descend. Jusqu'en bas, jusque sous les pieds, le subconscient et encore plus bas l'inconscient. C'est la Shakti. N'est-ce pas? Dans lui, il. Ce qu'il disait, je suis en train de le traduire encore. Quand on prend la Shakti en bas, n'est-ce pas, comme justement on la prend individuellement dans le... C'est une Shakti qui est déjà voilée, on pourrait dire, n'est-ce pas? Elle a son pouvoir, mais elle est voilée. Tandis que si on prend la Shakti là-haut, c'est la Shakti pure. Et si on peut la faire descendre avec assez de précaution et assez lentement pour qu'elle ne soit pas, comment dire, comment il dit ça? On pourrait dire pollué, n'est-ce pas? Mais en tout cas obscurci, pas en entrant dans la matière, alors tout de suite, le résultat est bien meilleur. Tandis que si on commence par ce sentiment de grand pouvoir en soi, parce que n'importe où elle s'éveille, c'est toujours un grand pouvoir. Il y a toujours le danger du mélange avec l'ego, comme il l'a expliqué. Tandis que si elle vient pure et qu'on a bien soin de la garder pure, c'est-à-dire de ne pas précipiter le mouvement afin qu'elle elle purifie à mesure qu'elle descend, alors la moitié du travail est fait.
Non, ce que je voulais dire, c'est un problème. Quand on prend contact avec le supraconscient, c'est quelque chose qui monte d'en bas, pourtant, quand ça sort d'ici, en
oui,
quelque sorte.
Oui.
C'est un autre mouvement, un mouvement
ascendant. C'est la conscience du jiva, la conscience personnelle.
C'est la conscience personnelle.
Individuelle, oui.
C'est quelque chose qui grandit.
C'est la conscience individuelle. Généralement, dans l'aspiration, c'est toujours une expression de l'être psychique. C'est-à-dire de ce qui s'est organisé autour du centre divin, n'est-ce pas, de la petite flamme divine qui est à l'intérieur de l'être humain. Dans chaque humain, il y a cette flamme divine, n'est-ce pas? Et petit à petit, à travers toutes les incarnations et tout karma et tout ça, il y a un être qui s'organise et que c'est on appelé l'être psychique. Et quand l'être psychique est arrivé à pleine formation, c'est pour ainsi dire le revêtement, une espèce de revêtement corporel, ou en tout cas individuel, de l'âme. De l'âme qui est portion du suprême, n'est-ce pas ? Le jiva est une... Le jiva est la forme individuelle du suprême. Et n'est-ce pas, comme il y a un suprême, il y a un jiva, mais des millions de formes individuelles. Et ce jiva qui commence par être une étincelle divine, n'est-ce pas, qui est immuable, éternel, n'est-ce pas, infini aussi, mais infini. Infini dans ses possibilités plutôt qu'infini dans sa réalisation. À travers toutes les incarnations, petit à petit, se cristallise autour de lui tout ce qui a reçu et répond à l'influence divine. Et devient à la fois de plus en plus conscient et de plus en plus organisé. Ça finit par être un être individuel, tout à fait conscient, maître de lui-même, et absolument mu par la volonté divine. C'est-à-dire une expression individuelle du suprême. Ça, c'est ce que nous appelons l'être psychique. Et généralement, ceux qui font un yoga, sont un être psychique ou complètement formé, indépendant, et qui est revenu dans la vie afin de faire le travail du divin, ou bien un être psychique qui est dans sa dernière incarnation et qui, n'est-ce pas, veut achever sa formation, se réaliser lui-même. C'est ça qui aspire, c'est ça qui a le contact, et alors ça, c'est en même temps, n'est-ce pas? Quand on dit « prenez conscience de votre être psychique », c'est pour que l'être formé comme ça, par la nature extérieure, entre en contact avec la présence divine à travers l'être psychique. Et l'être psychique prend le gouvernement de l'être et le passé. Et c'est au fond l'instructeur intérieur. C'était une conscience et une volonté qui s'exprimaient. Quand j'étais toute petite, c'était vraiment, n'est-ce pas, la présence psychique. Il y avait autre chose derrière. Mais ça, ce sont des cas. Ça, c'est un cas plus spécial. Mais ça, n'est-ce pas, ce qui m'est arrivé peut arriver à tous ceux qui ont un être psychique qui s'est incarné volontairement. Et l'être psychique prend la direction de la vie. Et si vous le laissez faire, il organise toutes les circonstances. Mais ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Je l'ai vu pas seulement pour moi, mais pour tant de gens qui aussi avaient, n'est-ce pas, des êtres psychiques conscients. C'est organiser tout en vue, pas du tout de votre satisfaction égoïste personnelle, mais de votre progrès final. Votre réalisation finale. Et que toutes les circonstances de la vie sont comme ça, même ce que vous appelez catastrophique, pour vous mener aussi vite que possible vers là où vous devez aller. Toi, c'est plus qu'un être psychique. Seulement, l'être psychique est accompagné de quelque chose, comme je l'ai dit, qui est venu dans un but spécial et qui est venu de des régions, je pense, que Sciobino appelle l'overmind, des régions supérieures au mental, avec une puissance intellectuelle particulière et une puissance lumineuse consciente particulière pour une œuvre spéciale. Eh bien, ça, c'est là, et avec le psychique, ça essaye d'organiser tout. Ce que tu sens, c'est ça dans ton psychique. Ça doit avoir une grande puissance. Tu dois sentir une sorte de force lumineuse.
Oh, je sens, oui, une force comme ça.
C'est ça.
Mais c'est pour ça que j'arrive pas à distinguer ce qui vient d'en haut ou d'en
bas. Non, il y a un moment où on ne peut plus la distinction.
Ben, c'est ça que j'ai du mal. Pour en parler, j'ai de la difficulté. Parce que je ne sais pas ce qui est en haut.
Allez,
ou en bas.
On dit toujours tout ce que je viens de te dire. Tu sais, c'est. On a toujours l'impression d'être comme ça et qu'il y a quelque chose qui est en bordure et qui est toujours en tangente de la vérité. C'est jamais le point, c'est toujours à côté comme ça. Et ça, dès qu'on parle, ça...
Il faudrait tout dire en même temps.
Oui, c'est ça, mais c'est pour ça. Il faut tout dire en même temps, comment on peut. Voilà, c'est exactement.
Je vois bien pour écrire, on a, ouais. C'est ça, il faudrait pouvoir, une expression globale.
Oui, je Guindon le dit tout le temps, n'est-ce pas ça? Que dès qu'on se met à l'écrire, ça fait comme ça.
Oui.
Et de la minute où ça fait comme ça, c'est plus ça. Ça, il faut en prendre son parti.
Bon, écrire, c'est pas satisfaisant. C'est pas ça. Écrire, c'est pas satisfaisant. C'est pas un moyen d'expression. La musique.
Pas beaucoup mieux.
Pas beaucoup mieux.
La peinture, c'est pire. Non. Je me suis demandé, peut-être, un être humain qui aurait développé un organe de vocal exceptionnellement puissant et qui pourrait consciemment brancher ce qu'il veut dire ou ce qui doit s'exprimer simplement avec l'organe, la voix, et puis la laisser sortir sous cette influence. Ce serait peut-être la seule chose qui approcherait du vrai. J'ai eu des petits moments d'expérience comme ça, mais même là, ça m'a paru un peu pauvre. Un peu pauvre. Il y a tout un domaine qui échappe. Je me souviens du temps où le 31 décembre, à minuit, je me mettais à l'ordre, sans savoir le moins du monde, ni ce que j'allais jouer, ni ce que j'allais chanter. Et je laissais la force venir, ça jouait, et puis le son, la voix venait, et puis dans la voix des mots. Je n'écrivais pas d'avance, et c'est parce qu'il y a des gens qui se sont mis à écrire ce que je disais, mais qui naturellement l'ont écrit de travers, et alors j'ai pris l'habitude de, après, le noter. Et c'est seulement très longtemps après que j'ai commencé à écrire d'avance et que j'ai laissé tout ça. Quand j'ai cessé de faire à minuit. Mais les premières fois, chez Obindo était là, il y a très longtemps. C'était comme ça. Je ne savais ni ce que j'allais jouer, ni ce que j'allais dire. Et ça, c'était d'abord le son comme ça, puis la voix, et puis dans la voix, des mots. C'est-à-dire que ça, c'était comme quelque chose qui se rassemblait, qui se concrétisait. Mais c'était assez puissant. C'était assez puissant, mais incomplet. Incomplet. Au fond, il faudrait pouvoir ajouter à ça des jeux de lumière. Mais pas des jeux artificiels. le maniement conscient et volontaire de certaines vibrations divines, ajouté au son. Mais là-dedans, la pensée telle que nous la concevons maintenant, est une chose beaucoup plus matérielle. C'est-à-dire, c'est pas la pensée que je veux dire. Oui, la pensée, la formule en mots, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus bas dans l'échelle. Il y a des pensées, pas des, est-ce que c'est des pensées? Il y a des. C'est plus haut que l'idée, beaucoup plus haut que la pensée, beaucoup plus haut que l'idée. C'est la vision de la connaissance. Dans un domaine extrêmement lumineux, où les vibrations sont très précises et très fortes, et qui évidemment, dans la descente, se traduit par des sons et par des sons et des mots. Mais ça, c'est... Si on le donnait... Si on le donnait dans sa, la forme la plus proche de l'origine, c'est des vibrations lumineuses. Mais l'esprit humain s'empare de tout et puis il en fait une copie, hein. Il fait une copie. Tous ces jeux de lumière, tout ça, que l'on fait maintenant. C'est comme ce goût du théâtre, n'est-ce pas, ce goût du cinéma. Et pourtant, ça a son effet, hein. Mais c'est une copie. Nous sommes des singes. Mon petit fils, je crois ne pas me tromper, que ça c'est un domaine tout à fait pratique. J'ai l'impression que la conscience serait bien à sa place. Nous sommes mercredi. Alors, c'est samedi. Ne t'amuse pas à noter tout ça.
C'est ça, mais c'est intéressant. Non, aussi. Mais je fais l'après-midi. Je fais l'après-midi, le matin, je travaille.
Pour que ce soit intéressant, il faudrait que ce soit systématique avec des exemples. Ça, ce serait une interminable histoire. Mais n'est-ce pas, les périodes de la vie ont été aussi claires que possible, nettement délimitées, préparant tout pour mon arrivée ici. Il y a beaucoup, beaucoup de choses de ma vie qui ont complètement disparu. Je ne sais plus. C'est parti de la conscience et c'est tout ce qui était inutile. Mais la vision est très, très claire de tout ce qui préparait justement le jiva pour son action ici. Et j'étais arrivé, avant de partir pour rencontrer Théobino, j'avais réalisé tout ce qu'il fallait réaliser pour pouvoir commencer son yoga. C'était tout prêt, classé, organisé, magnifique, avec une superbe construction mentale, qu'en 5 minutes, il a chuté par terre. Oh, comme j'étais heureuse. Ça a été vraiment la récompense de tous mes efforts. Rien, je ne savais plus rien, je ne comprenais plus rien à rien, il n'y avait plus une idée dans ma tête. Tout ce que j'avais élaboré avec toutes mes expériences et tant d'années, plus de 35 ans, je crois. De yoga conscient, de yoga pas conscient, de vie, d'expérience vécue, classée, organisée. Oh, c'était un monument. Plop, tout parti. Ça, c'était magnifique. Je ne vais même pas demander. J'avais essayé d'avoir le silence mental total. N'est-ce pas, cette espèce de repos mental dont il parle, que lorsqu'on l'a, tout peut passer à travers votre tête, ça ne bouge rien. Ce qui dit ce que tu viens d'écrire. Ça, je n'étais pas, j'avais pas réussi. J'avais essayé, mais j'avais pas. C'est, quand je voulais être silencieux, je pouvais. Dès que je recommençais à ne pas penser seulement à ça, à ne pas vouloir seulement ça, c'était l'invasion. Et alors, il fallait recommencer tout le travail. Je lui ai seulement dit ça, pas en grand détail, quelques mots. Et puis, je me suis assise près de lui, il a commencé à parler avec Richard du monde, du yoga, de l'avenir, de toutes sortes de choses, de tout ce qui allait se passer. Il savait que la guerre allait éclater. C'était en 1914. La guerre a éclaté au mois d'août. Il le savait à ce moment-là, c'est-à-dire fin mars, commencement avril. Il parlait tous les deux des grandes spéculations. Ça m'intéressait pas du tout. J'écoutais pas. C'était toutes des choses qui appartenaient au passé. J'avais vu tout ça. Moi aussi, j'avais mes visions, mes connaissances. Je me suis assis à côté de lui, simplement comme ça, par terre. Il était assis à une chaise avec une table, et de l'autre côté de la table, il y avait Richard, et puis il parlait. Et puis alors moi, je n'écoutais pas, j'étais assis. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés, mais tout d'un coup, j'ai senti en moi comme une grande force, une paix, un silence massif. C'est venu, et c'est comme ça, c'est arrêté là. Alors quand ils ont fini de parler, je me suis levée. Et puis je suis partie. Et puis je me suis aperçue que je n'avais plus ce que je pensais. Que je ne savais plus rien, que je ne comprenais plus rien, que j'étais absolument dans un blanc complet. Alors j'ai rendu grâce au Seigneur et j'ai remercié Dieu vide dans mon cœur. Et j'ai pris grand soin de ne rien déranger. Je l'ai gardé comme ça, je ne me souviens plus, mais c'était quelque chose comme 8 ou 10 jours. Rien, n'est-ce pas? Pas une idée, pas une pensée sur rien. Un blanc complet. C'est-à-dire, au point de vue extérieur, l'idiotie totale. Moi, j'étais dans ma joie intérieure, bougez pas, bougez rien. J'ai parlé aussi peu que possible et c'était comme une mécanique comme ça. C'est pas moi. Et puis lentement, lentement, comme si ça tombait goutte à goutte comme ça. De nouveau, quelque chose s'est construit. Mais ça n'avait pas de limite, ça n'avait pas. C'était grand comme l'univers. Et c'était merveilleusement tranquille et lumineux. Ici, il n'y a rien, là. Et puis de là, ça a commencé à voir tout. Et ça ne m'a jamais quitté. Ça, tu sais, au point de vue de la preuve du pouvoir de Chiomino, c'est une chose incomparable. Je ne crois pas que. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu d'exemple d'une réussite si totale d'un miracle. Ça ne m'a jamais quitté. J'ai été au Japon, j'ai fait tant de choses, j'ai eu toutes les aventures possibles, même les plus désagréables. Ça ne m'a jamais quitté. Tranquille, tranquille, tranquille. Et c'est lui qui l'a fait entièrement, je ne lui ai même pas demandé, il n'y avait pas d'aspiration, rien. Il y avait des efforts précédents, je savais qu'il fallait que ça vienne, c'est tout. Mais ce jour-là, je ne lui en avais pas parlé, je n'y pensais pas, je ne faisais rien. Et lui, extérieurement, il avait l'air d'être tout occupé de sa conversation, n'est-ce pas, de ceci, de cela, de ce qui allait se passer dans le monde. Moi, c'est comme ça que je comprends les choses. Mais j'ai jamais pu le faire pour quelqu'un comme ça. De cette façon-là, avec cette plénitude-là, jamais. Jamais. C'est tout. C'était formidable. N'est-ce pas? Vraiment, on peut dire que c'est seulement le Seigneur qui peut faire ça. Il n'y a que lui. Sans le moindre effort, sans même l'air d'avoir, n'est-ce pas? Il n'avait même pas l'air de se concentrer, rien, n'est-ce pas? Simplement comme ça. Tu ne l'as jamais rencontré, tu
sais? Si, j'ai eu un darshan.
Ah, tu l'as vu?
Puis j'ai eu une expérience. La première année de mon... Je ne savais pas que c'était une expérience, d'ailleurs.
Ah.
La première année de mon séjour... Une nuit, il est venu, et puis il m'a posé la main sur mon cœur. Et j'ai pleuré dans mon rêve. Et après, je me suis dit, quelle drôle d'imagination j'ai eu là. Je pensais que c'était de l'imagination.
Oh, mon petit. Mais c'est un miracle.
Il a posé la main sur mon cœur, et je pleurais, tant que je pouvais dans mon rêve.
Ça, c'est psychique. C'est le contact psychique. Alors, ça ne va pas être si difficile. Bon. Ceux qui l'ont vu, ça fait tout de même une différence.
Je l'ai vu une fois, j'ai eu un darshan. Un darshan. En 48.
49.
48, 48 je crois, ou 42, 48 je crois.
C'était quand Baron était là?
Oui.
Tiens, ça c'est intéressant. En 48. Ah, il était bien portant encore. Il avait eu sa jambe cassée. Tu es resté ici jusqu'à quand?
40...
La première fois.
Jusqu'à 49, je crois.
Jusqu'à 49.
Oui.
Alors lui aussi savait que tu n'étais pas destiné. S'il t'a vu là, c'est bien. C'est bien petit, c'est bien, ne te tourmente pas. C'est bien.
Oui, il est tard.
Tu veux du fromage?
Oh non, tu m'en as donné, j'en ai plein.
Je te dis ça parce que c'est la seule chose que j'ai.
J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut.
Alors, samedi.
Samedi.
Avec la conscience.
Bah oui, peut-être.